est absolument essentiel.
Oui, absolument.
Absolument pas. Absolument.
Essentiel. Une émission présentée par Thomas Lacombe.
Le risque de se livrer à l'inessentiel est lui-même essentiel. Maurice Blanchot, L'Espace littéraire. Bonjour. Très heureux de vous retrouver sur Transistor pour vous proposer une nouvelle émission absolument essentielle. C'est son titre, du moins. Une émission de rencontre avec celles et ceux qui composent le monde de la musique, acteurs, écrivaines, chanteurs, intellectuels ou universitaires. Et la saison va commencer au son d'une trompette. Deux victoires du jazz, une victoire de la musique, une nomination au César, deux albums sortis en même temps le 25 septembre dernier, Kaltoum et Red and Black Light. Mon premier invité est musicien, compositeur, arrangeur et professeur de musique. Mon premier invité m'a reçu dans sa loge, à la maison de la radio, avant l'enregistrement de l'émission Partons en live pour France Inter depuis le légendaire studio 105. Mon premier invité m'a demandé de le tutoyer. Mon premier invité, c'est Ibrahim Malouf, et ce qu'il a à nous dire est absolument essentiel. Rencontre. Bonjour Ibrahim Malouf.
Bonjour.
Alors le 25 septembre dernier, tu sortais deux albums, Kaltoum et Red and Black Light. Tu as donc rompu définitivement la série des Dia. Je m'explique. En 2007, ton premier album s'appelait Diaspora. En 2009, tu sortais Diachronism et tu tenais ta trompette à l'envers sur la pochette de l'album. En 2011, tu étais photographié en plongée sur la couverture de ton album Diagnostic et la trompette était à l'endroit, ouf. Et enfin, en 2013, sur la pochette de l'album Dia, tu faisais un truc super bizarre avec ton casque, tu le tenais façon cyclope dans X-Men et ta trompette avait disparu. Ma question porte pas sur l'état de santé mentale de celui ou celle qui crée tes pochettes d'albums, mais sur ce préfixe Dia. Pourquoi cette volonté de mettre Dia
alors,
dans tes albums?
En vrai, c'est les trois premiers albums qui s'appelaient Dia, ouais. Dia quelque chose. Et l'album Dia, en fait, c'était le coffret qui rassemblait les trois, parce que j'avais envie de les unir, c'était trois albums qui allaient vraiment ensemble. Et voilà, donc ça c'était un chemin que je devais parcourir pour trouver aussi ma voix, pour trouver mon identité musicale, et le dia qui vient du grec qui veut dire à travers. Et c'était un peu ça l'idée, c'était il fallait que je passe par un chemin qui était un chemin obligé, c'était ces trois albums là. Après ça, il y a eu d'autres albums qui ne commençaient pas par dia.
C'est vrai qu'en 2012 Wind par exemple.
Oui. Voilà, Wind, puis Illusion, puis après on a fait Au pays d'Alice avec Oxmo Puccino.
On y reviendra, ouais.
Voilà, après il y a eu quelques musiques de films aussi. Mm-hmm. Et donc là, je sors deux albums en effet qui rompent un peu avec ça, mais peut-être parce que je suis plus dans ce chemin là, je suis dans un autre.
Mais tu les réécoutes, ces albums qui sont un peu ce qui était nécessaire pour le chemin?
Alors ça m'arrive de temps en temps de réécouter, parce que quand je travaille sur mes albums, j'ai une hantise, c'est de me répéter, de refaire la même chose. Et donc du coup, parfois, quand... Je dis pas que j'oublie des choses, c'est pas ça, mais j'ai des doutes parfois sur certaines mélodies, certaines choses. Je me dis, ah, il faudrait peut-être que je réécoute ce morceau, parce que j'ai l'impression que ça ressemble déjà à quelque chose que j'avais fait précédemment. Voilà, mais... Voilà.
Alors le grand public, il te découvre peut-être en 2014, puisque tu reçois à ce moment-là une victoire de la musique dans la catégorie meilleur album de musique du monde pour ton magnifique CD Illusion. T'as dû être extrêmement fier, heureux, on imagine. Surtout que c'était la première fois en 29 ans que la victoire de la musique récompensait un projet musical entièrement instrumental. Donc ça fait quoi d'être tout d'un coup propulsé visage de la musique instrumentale?
Alors, je sais pas trop quoi répondre à ça, parce que c'est vrai que je l'ai pas vécu comme ça. Je suis pas vu comme étant d'un seul coup le visage de la musique instrumentale, parce que je vis depuis très longtemps avec les instrumentistes, et pour moi, les instrumentistes, c'est la musique, vraiment, depuis très très longtemps. Mais c'est vrai que je lutte un peu contre un genre de rouleau compresseur depuis pas mal d'années maintenant, où il y a quand même, faut l'avouer, une unilatéralité au niveau de la chanson dans tout ce qui est diffusé au niveau radiophonique. Je parle sur les radios généralistes, hein. Grosse radio, ne diffuse jamais en playlist des musiques instrumentales. Et on se bat contre ça depuis très longtemps.
Et pourquoi, à ton avis, ça tient à quoi?
J'ai plein de raisons en tête. J'y pense très souvent. Parce que c'est,
par
c'est
exemple
un, c'est un de mes... Je pense que c'est plus facile. Je pense qu'il... Pardon, hein, parce que je veux pas dire de bêtises, mais je pense qu'ils prennent un tout petit peu les gens pour des idiots. C'est-à-dire qu'ils pensent vraiment, ils sont persuadés que les gens ne sont pas capables d'écouter des musiques où il n'y a pas quelqu'un qui chante des paroles. Voilà, tout simplement. Moi, ça fait quand même 8 albums que je fais. Tous ont été automatiquement rejetés des playlists de toutes les radios qu'on a sollicitées. Et on a sollicité quasiment toutes les radios généralistes.
Et la victoire de la musique, ça n'a rien changé.
Même ça, ça n'a rien changé. Ouais, c'est assez fou. Mais par contre, c'est vrai que c'est une énorme victoire pour nous. Au-delà d'être une victoire de la musique, c'était une énorme victoire. C'est qu'on a été, d'ailleurs, il y a eu plusieurs journaux, dont le JDD, le Parisien, etc., qu'on a vraiment parlé le lendemain et dans les jours qu'on suivit. C'est qu'on a été l'artiste qui a bénéficié le plus de ces victoires en termes d'impact sur les ventes de disques, notamment sur Twitter. J'étais pendant toute la soirée des victoires, le troisième nom le plus tweeté.
Bah, faut dire que la prestation ce soir-là, elle était assez extraordinaire quand même.
Ben, merci, c'est gentil de dire ça, mais c'est vrai qu'au-delà de. J'ai fait monter des instrumentistes sur scène, tous mes élèves en fait du conservatoire.
Il y avait masse. Ouais.
C'était tous mes élèves du conservatoire que j'ai fait monter justement pour dire bah, regardez, vous nous donnez une victoire, et bah, regardez, on est tous là, et il y a énormément de gens en France qui font des instruments de musique, qui jouent des instruments de musique, de la clarinette, du hautbois, du basson, du violon, de l'alto, etc. Pas que le piano et la guitare, mais plein d'autres trucs aussi. Et on aimerait bien, nous aussi, être représentés sur ces radios généralistes. Il n'y a pas que les chanteurs. Voilà. Alors, il y a plein d'autres raisons. Hein. J'imagine qu'il y en a plein. Mais c'est celle qui me semble la plus logique. C'est qu'on pense que les gens ne sont pas capables d'écouter des musiques instrumentales, comme si les gens n'étaient pas capables de comprendre. Et je pense que c'est une énorme erreur.
Une énorme erreur, et donc toi, tu es instrumentiste, tu le revendiques haut et fort, tu aimes les instruments, tu aimes les musiciens.
Mais j'aime les chanteurs aussi beaucoup.
Ah bah j'imagine.
Et
oui.
Je travaille avec des chanteurs depuis très longtemps.
Et d'ailleurs, avec Puccino,
mais voilà, mais depuis très longtemps.
Dernier CD, avant ceux qui sortent en septembre. Donc, ton instrument à toi, c'est la trompette, tu maries jazz, musique orientale, et tout ça n'aurait pas été possible sans un homme, Nassim Malouf, ton père, trompettiste lui aussi, qui, à 23 ans, est parti du Liban pour venir suivre à Paris les cours du conservatoire avec Maurice André. Il a collaboré pendant 2 ans avec les facteurs de cuivre Selmer, et il a conçu une trompette assez unique, à 4 pistons, dite à quart de ton, qui est du coup capable s'adapter aux spécificités de la musique orientale. La musique, du coup, chez les Malouf, c'est une affaire de transmission, d'héritage ?
Oui, complètement. Alors c'est évidemment de la musique, avant tout. C'est le plaisir de chanter ensemble à la maison, de faire de la musique tous ensemble. Mon père faisait beaucoup de concerts quand j'étais jeune, et il me demandait de l'accompagner sur scène aussi. Donc je montais, je faisais des duos avec lui. Donc entre l'âge de 9 ans et l'âge de 13-14 ans, j'ai dû faire 400 ou 500 concerts avec lui, un peu partout en Europe et tout, dans le Moyen-Orient. Donc ça, c'est une vraie transmission, un vrai amour, une vraie passion. Et dans ma famille, il y a aussi beaucoup de profs, donc autant ma mère qui est pianiste et qui est prof de piano, mon père qui a toute sa vie dédié toute sa vie à l'enseignement, mais aussi avant, mes grands-parents, dans mes ancêtres, il y a eu beaucoup de profs et d'enseignants, et je me sens assez...
Donc la musique et la pédagogie.
S'il y a une mission dont je me sens véritablement investi, s'il y a une chose qui me passionne véritablement, au-delà... évidemment de composer et de jouer de la musique, parce que ça me paraît évident, mais s'il y a une chose vraiment qui me tient vraiment beaucoup à cœur dans cette petite vie, c'est de transmettre tout ce qu'on m'a appris, et de le transmettre avec le plus d'amour et de tendresse possible pour ceux qui apprennent.
Et c'est pour ça que tout à l'heure tu parlais des élèves de ton conservatoire, c'est ça ?
Ouais.
Donc tu t'investis, c'est pas juste des grands mots qu'on dit dans des interviews de radio.
J'enseigne depuis l'âge de 17 ans, j'ai commencé par des cours privés. Très rapidement, quand je suis rentré au conservatoire de Paris, on m'a proposé un petit poste dans un conservatoire municipal. Ensuite, j'ai enseigné là-bas pendant 7 ans. Puis on m'a proposé un poste dans un conservatoire à rayonnement régional, à Aubervilliers-la-Courneuve, où j'ai enseigné pendant 7-8 ans également. Et là, ça fait 4 ans que j'enseigne au pôle supérieur de Paris-Boulogne. Paris-Boulogne, c'est des jumelés, hein, donc c'est le CRR de Paris, à Saint-Lazare. Donc en effet, là, sur 34 ans de vie, j'en ai passé la moitié à enseigner et à transmettre ce que j'aime, et je pense que j'arrêterai jamais, parce que c'est vraiment quelque chose qui me passionne énormément. J'adore être avec les élèves, sentir que je sers à quelque chose, Même si j'adore être sur scène, j'adore faire de la musique, composer, mais quand on compose, on ne sert pas forcément à grand-chose, si ce n'est que les gens voilà, peuvent apprécier ou pas apprécier. Mais quand on transmet quelque chose, quand on enseigne quelque chose, je vois toutes les semaines, tous les lundis matins, mes élèves avec les yeux écarquillés qui m'écoutent et qui d'un seul coup appliquent quelque chose que je leur apprends. Et voilà. Et d'ailleurs, j'ai remarqué une chose, c'est que tous les musiciens, ou une bonne grande partie des musiciens avec qui je partage cet amour de la musique et qui passent beaucoup de temps avec moi sur scène et avec qui on tourne, sont tous aussi passionnés d'enseignement et enseignent. Donc c'est qu'il y a vraiment quelque chose, et c'est une vraie vocation.
Alors, composition, transmission, et puis aussi collaboration, parce que tu le disais tout à l'heure, oui, tu les aimes, les chanteurs, tu as collaboré avec de nombreux artistes, on pourrait en citer quelques-uns, et je vais te demander un petit mot ou un souvenir pour caractériser ces artistes avec lesquels tu as pu travailler, notamment Amadou et Mariam.
Ben Amadou et Mariam, c'est assez incroyable. C'est, je crois, une des toutes premières séances de trompette que j'ai pu poser sur des albums. Et c'était, je crois, Vincent Segal, qui est un grand musicien français, un violoncelliste français, qui est en train de produire leur album. Et j'avais rencontré un producteur que j'avais sollicité comme ça par téléphone. J'avais dit, voilà, moi je suis musicien, j'aimerais bien vous montrer ma musique. Et il était sympa, il m'avait dit, bah passe si tu veux. Je connaissais encore personne. Et donc il me dit, il écoute un peu ma musique, il me dit, bah je pense qu'il y a quelqu'un que ça pourrait plaire. Alors il appelle Vincent, moi je connaissais pas encore Vincent Segal, il dit, je voudrais te présenter quelqu'un. Et Vincent lui dit, bah viens, on est au studio, machin, on est en train d'enregistrer un album. On arrive, le jour même où je passe ses coups de fil en fait. On arrive et puis Vincent me dit, ben vas-y, sors ta trompette, si tu veux, tu peux jouer un truc. Et ils ont enregistré ce que j'ai fait, c'était sur une des chansons d'Amadou et Mariam, et ils l'ont gardé, qui était complètement spontané, c'était une impro. Ils ont gardé, et c'était ma première paye en tant que musicien de studio.
C'est un super souvenir.
C'est un excellent souvenir, ouais.
Souvenir fondateur.
Fondateur, complètement, ouais.
Alors après, dans les collaborations, il y a aussi Sting.
Ouais, bien sûr.
Un petit mot, peut-être.
Un petit mot sur Sting. Bah ouais, alors moi, il m'a invité donc, à jouer sur un de ses albums. Et c'était un vrai plaisir. J'ai passé 2 semaines en Toscane à travailler avec eux, avec le réalisateur, etc., tous les musiciens qu'il y avait. Et au final, ils ont gardé... je fais l'ouverture de l'album, donc sur le premier morceau de l'album. Après, malheureusement, il m'a proposé de faire la tournée avec eux, mais je pouvais pas. J'ai dû refuser la tournée.
Tu as refusé Sting.
J'ai refusé une tournée avec Sting, en effet. C'est fou. Alors après, je le crie pas sur tous les murs, hein, parce que ça fait un peu, ça peut paraître un peu présomptueux comme ça, mais en fait, en vrai, j'attendais un enfant. Enfin, ma femme attendait un enfant, et il y avait des risques que le bébé naisse. Sur le premier mois de la tournée,
d'accord,
et je voulais vraiment être là. Donc...
Bon, on comprend. Hein.
Voilà.
Alors, autre collaboration, on pourrait les multiplier. Vincent Delerme, j'ai essayé de choisir des styles de musique aussi différents.
Mais Vincent, c'est l'artiste avec qui j'ai fait le plus de scènes. C'est lui qui m'a appris à gérer la scène. C'est un artiste assez extraordinaire qui sait comment parler au public, qui sait comment créer un vrai lien humain avec le public et pas juste faire des concerts et montrer une forme de virtuosité ou quoi. C'est quelqu'un qui est à la fois... très dense dans les propos qu'il a et artistiquement, moi j'aime vraiment vraiment beaucoup et surtout voilà sa manière de gérer la scène, sa manière de parler au public, quelque chose de très sincère, de très authentique, et ça m'a fait beaucoup beaucoup de bien d'être à ses côtés pendant toutes ces années.
Alors pour terminer un petit peu la liste, on en parlait tout à l'heure, Oxmo Puccino, il y a à la fois ce CD Au Pays d'Alice, comme Alice au Pays des Merveilles, musique arabe, jazz, rap et Lewis Carroll. Drôle d'association ou association hyper nécessaire?
Surtout une association très logique par rapport à l'œuvre en soi de Lewis Carroll. C'est une ode à tout ce qui est irrationnel en fait. Et Oxmo et moi, on adore ça. On aime tout ce qui n'a pas de sens parce que justement, on essaie de lui donner du sens au final. Et le sens des choses existe parce qu'on lui en donne en fait. Hein. C'est comme dans les sciences, comme dans les maths, comme dans tout, c'est toujours l'instinct qui guide et ensuite le cerveau qui analyse. Et moi, j'ai beaucoup, beaucoup aimé Alice au Pays des Merveilles. Oxmo étant également, comme moi, assez fan de ce livre, quand on a travaillé dessus, ça nous semblait évident qu'il fallait amener à nous toutes les cultures qui nous ressemblaient, toutes les interprétations possibles de ce livre à notre façon.
Alors, on évoquait depuis le début la musique arabe, les influences orientales, on en vient... à ton actualité, à tes deux albums très différents qui sont sortis le 25 septembre dernier, et d'abord à Kaltoum. Alors, pour ceux qui n'auraient pas compris la référence, qui est Kaltoum?
Kaltoum est certainement le plus gros monument de la culture, le plus grand monument de la culture arabe contemporaine. C'était une artiste vraiment sans égale qui a clairement marqué l'histoire et même transformé l'histoire. C'est une femme qui a su se faire respecter des plus grands dans le monde, dans la culture arabe. C'est une vraie féministe, mais qui s'est imposée dans une forme de respect et une forme de sérénité. Et évidemment, tout ça grâce à l'art, grâce à la chanson. C'est certainement la plus grande chanteuse du monde arabe. Une voix assez extraordinaire qui résonne encore aujourd'hui d'ailleurs dans toutes les rues d'Égypte et qui voilà, qui au-delà de sa voix, de son répertoire qui est extrêmement chargé à parler aux gens, à parler au monde entier. Et moi, j'ai grandi en écoutant Om Kalthoum.
Mais c'est ça, pour
C'était
toi, qu'est-ce qu'elle représente? C'est l'enfance ou c'est plus que ça?
C'est l'enfance, mais c'est aussi la musique classique arabe. C'est la virtuosité, c'est la fragilité mêlée à la virtuosité. Om Kalthoum avait dans sa voix comme une petite cassure, une petite fragilité qui lui donnait comme une force. Elle était capable de tout chanter enfin, dans son répertoire, c'est incroyable. Et c'est ça, quoi. C'est ce mélange entre la fragilité avec la petite cassure, la petite fêlure dans la voix, et à la fois la puissance de chanter tout ce qu'elle avait envie. C'est presque un symbole, je trouve.
Donc il y a cet album-là et toute cette volonté de rendre hommage à Oum Kalthoum et à ce pendant entre fragilité et force qui est rendu dans l'album, avec tous ces mouvements qui nous amènent justement à une sorte d'apothéose de ce mélange entre fragilité et force. Et
Oui,
puis...
et puis surtout Kalthoum, j'ai eu envie de reprendre en fait avec Frank Woest, qui est le pianiste avec qui je travaille depuis pas mal d'années. On a fait une transcription d'une de ses chansons les plus connues qui s'appelle Alf Layla wa Layla, qui veut dire les mille et une nuits en arabe, et qui voilà une de ses chansons, une de mes chansons préférées de son répertoire. Et vraiment on a traduit ça vraiment comme une transcription en jazz new-yorkais. Donc c'est une chanson arabe où moi à la trompette je reprends exactement la voix et ce que fait Oum Kalthoum, mais à la trompette. Et derrière, au lieu d'avoir l'orchestre classique avec les violons, les darbukas et tous les instruments traditionnels, on a un quintet de jazz vraiment dans la plus pure tradition américaine. Et du coup, c'est assez passionnant parce que ça révèle une symbiose qu'on oublie entre la culture arabe et la culture nord-américaine. Qui en fait, au final, ont la même origine qui est l'Afrique.
Et surtout, ces deux formes classiques, à la fois le jazz américain dans sa forme classique, dans sa forme pure, tu le disais, et puis ben, le monument, le classique de la musique arabe.
Complètement. Et il y a beaucoup de points de communion entre ces deux cultures. La culture nord-américaine et la culture arabe sont très proches. Et souvent, quand on ne connaît pas les cultures étrangères ou quand on ne connaît pas les étrangers, on a l'impression d'être très distant d'eux, de ne pas les connaître, d'être très différent. Et en réalité, plus on apprend à connaître les gens et plus on voit les similitudes.
Et pas les différences.
Et pas les différences, ouais, clairement.
Alors, plus on écoute tes deux albums qui sont sortis en septembre, plus on voit les similitudes, mais il y a quand même des différences. Et dans le deuxième album, il y a une femme qui apparaît en dernière piste. C'est pas Oum Kalthoum, c'est Beyoncé, puisqu'en effet, tu reprends Run the World.
S'il y a une femme aujourd'hui dans le monde entier que tout le monde connaît, dans les coins les plus reculés d'Afrique, comme dans l'Orient, comme en Asie, comme en Europe, évidemment aux États-Unis, en Amérique du Sud, c'est elle. Elle est, c'est devenu comme une institution de la pop américaine et de la pop mondiale. Et voilà, c'est une femme qui a du pouvoir, qui est devenue une femme qui joue un rôle important, qu'on aime ou qu'on n'aime pas sa musique, hein. Et donc voilà, sans aller jusqu'à dire que Beyoncé est la Oum Kalthoum d'aujourd'hui, parce que je pense pas que ce soit le cas. Il y avait un vrai parallèle à faire. Surtout sur cette chanson où elle dit justement que qui est-ce qui dirige le monde? C'est nous, les femmes. Et j'avais envie de reprendre cette chanson, puisque Red and Black Light est un hommage aux femmes aussi, mais aux femmes de l'ombre, et de dire, bah voilà, nous aussi, moi aussi je suis d'accord avec cette vision féministe, mais j'ai envie de le dire de manière beaucoup plus, je sais pas, plus personnelle, plus proche de la douceur de la trompette, plus proche de ma manière de voir la féminité.
Et dans un CD, peut-être aussi plus festif. Ça te parle si je dis que moi, je l'ai mis en soirée, ce CD, et que j'ai pu danser, par exemple, sur ce CD-là?
Ben, j'espère, c'est cool. C'est une des raisons aussi pour lesquelles j'avais envie que cet album sorte en même temps que Kaltoum, c'est que j'ai envie de défendre plusieurs jazz, pas qu'un seul. Kaltoum est un album de jazz, évidemment métissé avec la musique arabe, mais un jazz plus proche du jazz académique, même si ça n'en est pas du tout, mais c'est quand même plus proche du jazz académique, plus jazz traditionnel. Mais Red and Black Light, c'est un jazz qui, on va dire, va plus loin dans la prise de risque, notamment vis-à-vis de la pop, vis-à-vis des musiques plus dansantes. Et quand on repense au jazz d'il y a 60 ans, 50 ans, 70 ans, à cette époque-là, les gens dansaient en écoutant du jazz. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qui a pas mal changé. Aujourd'hui, quand on va dans un club de jazz, bah, on est assis, on a un cocktail, il ne faut pas bouger, il ne faut pas moufter. Il faut juste applaudir après les solos, mais sinon, à part ça, il ne faut surtout pas réagir. Et moi, j'ai envie d'un jazz, j'ai envie de ce jazz un peu plus fun, où on danse tous ensemble, on chante.
Un peu plus saine aussi.
Plus saine, ouais, certainement, mais surtout plus festif, quoi. Je pense que toutes les musiques, y compris le jazz, comme la musique classique, se renouvellent par l'aspect populaire. Et une des raisons pour lesquelles la musique classique, je trouve, a perdu de sa popularité, c'est parce qu'en fait, on n'a pas impliqué les gens. On a séparé ça, on a mis ça dans une boîte, une élite qu'on appelle la conservatoire, qui conserve, et qui finalement a fini par ségréguer complètement la musique classique de l'art populaire. Et du coup, ben, c'est beaucoup moins populaire d'un seul coup, on se demande pourquoi. Et le jazz vit une période où il y a deux écoles. Il y a l'école qui veut absolument que ça devienne une musique classique à laquelle il ne faut surtout pas toucher. Vous avez encore des gens aujourd'hui dans le monde du jazz, et il y en a quand même quelques-uns qui disent que le langage du jazz a été établi jusqu'aux années 60 et qu'après, tout ce qui a été inventé n'est pas du jazz, c'est juste des emprunts. Et moi, je trouve ça dangereux. Voilà, je pense qu'une culture doit continuer à évoluer, se transformer en permanence. Et vous avez une autre école dans le jazz, qui est la mienne, qui sont persuadés que ben, tous ces projets qui mélangent, qui métissent des choses, eh ben, c'est également du jazz et c'est un jazz qui est en train d'évoluer.
Alors, on parlait tout à l'heure de collaboration, on parle de différences entre les arts. Tu as notamment collaboré à des projets de cinéma. Alors, récemment, on peut prendre l'année dernière, le film de Jalil Esper, qui t'a valu une nomination pour les Césars de la meilleure musique originale pour le film Yves Saint Laurent. C'était les Césars 2015. C'est très différent de composer de la musique, on va dire, pour un projet musical classique.
Pour un album
ou pour un film.
Pour un film, ça dépend, en fait. Ça dépend avec qui on travaille. Ça dépend... Moi, en général, ma manière de travailler, même sur mes albums... est assez cinématographique, c'est-à-dire je pose des idées, puis je repose d'autres idées, puis encore d'autres idées, puis après j'enlève des choses qui me vont moins bien, puis et j'y vais comme ça en tâtonnant progressivement, en construisant mon propos musical comme des couches comme ça qui se superposent. Et le cinéma, c'est un peu ça aussi. C'est un premier propos qui évolue progressivement, puis on travaille sur la lumière, puis on travaille sur le scénario, puis on travaille sur l'image, puis on travaille sur le jeu d'acteur, etc. Et finalement, quand on compose de la musique pour le cinéma, on travaille un peu de la même manière aussi. Donc je me suis assez retrouvé dans ma manière de travailler.
C'est un exercice qui te plaît ?
Ah, j'adore ça. Moi, en fait, j'ai même toujours rêvé de faire de la musique de film. Et ça va même au-delà de ça. Mon tout premier album, pour moi, c'était une musique de film. C'est juste qu'il n'y a pas eu de réalisateur en face avec une image. Mais pour moi, c'était véritablement de la musique de film. Et je suis passionné de ça. J'ai même retrouvé une interview de 98 où la personne me disait « Mais vous rêvez de quoi ?» Et je disais « Mon objectif dans la vie, c'est de composer des musiques de film. »
Bah, c'est le cas.
Donc, voilà, ça commence.
Deux questions pour terminer, qui ont l'air toutes simples comme ça, mais qui ne le sont peut-être pas. Le titre de l'émission, c'est « Absolument essentiel ». Alors, qu'est-ce qui est absolument essentiel en musique ?
Ah, c'est marrant ça, parce que mon album, il a failli s'appeler « Essentiel ». Et il y a un des titres qui s'appelle « Essentiel » aussi, E2LES.
On en reparlera.
Et qu'est-ce qui est essentiel dans quoi ? Dans la musique ?
Ouais.
Ça va être cliché, mais en même temps, la question est assez
Elle est large,
ouverte, ouais. Quoi, elle est large, mais j'ai envie de dire la sincérité. Souvent, moi, j'ai des musiciens, des élèves ou des musiciens qui me proposent leurs albums, leur musique, qui veulent que j'écoute, etc. Ils me disent « Qu'est-ce que t'en penses ?» Et moi, ma seule réponse, c'est de toute façon, si c'est sincère, alors c'est bien. Tant que t'essaies pas de copier quelque chose pour avoir l'air d'eux, ou tant que t'essaies pas de faire quelque chose juste pour être dans l'air du temps, ou des choses comme ça, à partir du moment où c'est sincère, alors ça sera forcément beau.
Alors la question qui est connexe, peut-être que tu l'as deviné, qu'est-ce qui est absolument essentiel dans la vie ?
La musique. Ouais, la musique. La musique, parce que ça rassemble l'amour, la sincérité. Si là on n'était pas en train de faire une interview musicale, je dirais la famille.
D'accord. Donc il y a les deux aspects, et en plus, pour toi, c'est mêlé.
Ouais, c'est mêlé, ouais.
Merci, Ibrahim Malouf.
C'est moi, merci.
Alors, je tenais d'autant plus à te recevoir que c'est en écoutant en boucle Red and Black Light et surtout la chanson Essentielle que j'ai eu fin septembre l'idée de cette émission absolument essentielle, ah, d'où le titre. Donc, je me suis dit qu'un extrait d'Essentielle pour le générique d'émission, ce serait parfait également. Donc, merci encore plus d'avoir accepté d'être le premier invité et puis un petit peu le parrain, on va dire, de cette émission, oui, Ibrahim Malouf.
C'est un vrai plaisir, merci beaucoup.
La musique d'Ibrahim Malouf s'apprécie en CD, mais également en concert. Voici quelques dates. Les 12, 13 et 14 décembre 2015, Ibrahim Malouf sera à la Philharmonie de Paris. Le 14 avril 2016, au Zénith Sud de Montpellier. Ou encore le 20 avril 2016, à Rennes. Plus de dates, plus de renseignements sur le site internet de l'artiste. J'en profite pour remercier Sébastien Belloir et Sandra Nicolas qui ont permis que cette rencontre et cette émission aient lieu. La semaine prochaine, c'est Zvetan Todorov qui répondra à mes questions. Et d'ici là, surtout, n'oubliez pas l'essentiel.